Bonjour et bienvenue à vous qui nous suivez déjà. J'en profite pour vous remercier du fond du cœur et bienvenue à vous qui découvrez ce podcast ce dimanche matin. Aujourd'hui, trois portes de coulisses très différentes les unes des autres. La première porte s'ouvre sur Guy Chouraqui, comédien et professeur de théâtre à la Danse des mots. Vous avez déjà entendu Guy à ce micro. Cette fois, il nous parle d'une personne importante dans son parcours de comédien. La deuxième porte s'ouvre sur Nathalie Ardillier, une artiste aux multiples talents, et celui sur lequel je me suis arrêtée pour l'interview est son talent de danseuse de claquettes. Une discipline assez méconnue en France, vous allez voir, on va apprendre pas mal de choses. Derrière la troisième et dernière porte des coulisses se trouve Marion Lornier, fondatrice de Théâtre en mille et un lieux. Vous la connaissez déjà, car depuis cette deuxième saison du podcast, Marion nous raconte tout ou presque sur les détails méconnus ou secrets du théâtre. Cette fois, elle nous parle des drôles d'expressions. Restez à l'écoute, vous en saurez plus. Allez-y, en coulisses. Parcours artistique est fait de rencontres. Et pour Guy Chouraqui, l'une d'entre elles est marquante. Il s'agit de son professeur de théâtre, Fabrice. Et vous allez constater, à l'écoute de son récit, que ce professeur avait une forte personnalité.
Il y a eu une personne que je nommerai mon mentor, qui m'a ouvert la voie du théâtre, véritablement. Je me souviens avoir pénétré pour la première fois à la Maison des Jeunes et de la Culture du 20e arrondissement de Paris, qu'on appelait à l'époque la Maison des Amandiers d'ailleurs. C'était dans les années 80 et je voulais m'inscrire à un atelier théâtre. Cette MJC était située rue des Amandiers, justement, elle y est encore. Et pour l'anecdote, on confondra plus tard la Maison des Amandiers avec les Amandiers de Nanterre, mais ceci est une autre histoire. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mon futur animateur, Fabrice Nadar. Fabrice Nadar, il a également fondé sa propre compagnie à l'époque. Il avait sa compagnie, la compagnie Mira Nadar. Très rapidement, le courant est passé. D'abord parce que j'étais décidé à me laisser porter par mon désir de découverte. Et ensuite parce que Fabrice a su m'entraîner. Je dirais plutôt nous entraîner parce que c'était un cours collectif. À nous entraîner sur scène grâce à la technique, bien sûr, mais il avait surtout sa technique. Mais d'abord, avant tout, il faut que je vous dise qu'il nous fit tout de suite visiter la grande salle, le grand théâtre principal de cette maison des Amandiers, une salle où il y a 250 places. On a visité la salle, on a visité la régie, les projecteurs, et juste à côté, il y avait une autre petite salle attenante, qui donnait sur les coulisses de la grande salle, avec un plateau un peu plus petit. Et je revois encore cette salle avec un plateau semi-circulaire. Il y avait juste un ou deux projecteurs. Et c'est cette salle qui deviendra notre salle de répétition pour l'atelier théâtre. Alors je vous laisse imaginer comment la magie a pu d'emblée opérer quand j'étais sur scène pour la première fois, avec tous ces fauteuils vides en face de moi. C'est un véritable gouffre. Mais Fabrice, il était là, derrière nous, pour nous préparer à tout ça. En fait. Alors, c'était quoi son truc? Mais quand j'y repense, il y avait d'abord son jeu. Il y avait son jeu quand il était acteur lui-même sur scène. Et puis, quand il travaillait avec nous, il avait une sorte de... ce que je vais dire, une sorte de fougue pédagogique. Un enthousiasme, une impétuosité, tout ça s'était doublé d'une très très grande générosité. Tout cela a un petit peu déteint sur moi, à tel point que peu de temps et beaucoup de travail après, on me fera remarquer combien mon jeu, qui était souvent passionné, ressemblait à celui de Fabrice, comme une sorte de mimétisme que j'avais adopté un peu malgré moi, mais faut en reparler, mais c'est pas sûr que ce soit vraiment malgré moi. Fabrice, d'ailleurs, se produisait avec sa compagnie dans des créations auxquelles j'assistais, et évidemment, je m'identifiais peut-être un petit peu avec lui. Fabrice, parallèlement à son travail, c'était sa vie également. Il était pratiquant du bouddhisme. Un bouddhisme qui lui avait donné à la fois une grande sérénité, cette sérénité qu'on peut trouver chez les bouddhistes, enfin je pense chez la plupart des bouddhistes, et puis il avait une formidable joie de vivre. Une formidable joie de vivre qui transparaissait systématiquement dans son jeu d'acteur, comme je disais tout à l'heure, mais également dans la direction d'acteur, c'est-à-dire dans la conduite de son atelier théâtre avec nous, que ce soit en collectif ou en individuel. Et je me souviens par exemple que quand j'étais en travail individuel avec lui, quand il me faisait répéter certains monologues ou autres, eh bien il venait me secouer gentiment par les épaules au bout d'un moment en me disant: mais maintenant tu as les capacités, vas-y, la passion, sers-t'en cette capacité, tu en as les moyens. Alors là, on peut dire que j'avais trouvé en Fabrice l'animateur idéal, dans le sens où il était capable de me faire sortir un peu de mes retranchements, hein, de mes zones de confort, comme on dit aujourd'hui, et je lui accordais une confiance absolue, en fait. Il conduisait son atelier également avec toujours l'objectif de monter un spectacle. Un spectacle dans lequel il alliait les monologues et un jeu collectif avec des extraits de pièces classiques et contemporaines. S'il faut reparler des monologues, eh bien, du côté des monologues, il en avait beaucoup d'expérience lui-même, et c'est ainsi qu'il m'a proposé d'en travailler. J'ai choisi d'abord le monologue de Don César dans Ruy Blas de Victor Hugo, parce que ça correspondait tout à fait à mon tempérament de l'époque, et surtout à la façon dont Fabrice voulait que je sorte, encore une fois, de ces zones de confort dont je parlais tout à l'heure. Plus tard, il m'a fait travailler également Le Journal d'un Fou, de Nicolas Gogol. Alors là, on s'attaquait aussi à un gros morceau. Mais ça a marché, je l'ai présenté une première fois. Il était toujours derrière, de loin, à m'encourager par ses gestes et par sa préparation. Le travail avec Fabrice, que ce soit toujours en collectif ou en individuel, eh bien, ça passait toujours par une phase préparatoire systématique d'échauffement physique et vocal. J'ai conservé tous ces exercices, tous les exercices de Fabrice, les voyelles que l'on travaillait, les voyelles et les consonnes, les attaques, le travail de la mâchoire, etc. Et j'utilise encore aujourd'hui cette méthode. Et puis il y avait autre chose qu'il utilisait, Fabrice, c'était, de par un peu sa position de bouddhiste, il nous faisait travailler le om ou le hum, cette fameuse syllabe qu'on utilise dans le bouddhisme. Et pourquoi il nous le proposait? Parce que son objectif, c'était de nous faire placer la voix dans le masque, de faire monter celle-ci, et jusqu'à nous faire vibrer le bout du nez. Alors, ça marchait. Le plus incroyable, c'est que ça marchait parce que on arrivait bien à placer notre voix et pouvoir tenir longtemps sur scène avec une voix qui n'allait pas se casser, quoi. Enfin bref, ça c'était par la partie technique. Côté interprétation, eh bien j'ai vite découvert qu'on travaillait avec un grand professionnalisme, un professionnalisme qui était dicté par l'expérience de Fabrice. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai découvert, surtout accepté, de pas m'endormir sur mes lauriers, c'est-à-dire de recommencer encore et encore et encore mon entrée, à tenter de lui expliquer sur sa demande pourquoi j'entrais ainsi et pas autrement. Bref, on pourrait dire que c'est un travail classique d'atelier et d'interprétation, mais avec Fabrice, ça prenait une autre dimension. Le temps a passé, les expériences avec, et nos routes se sont séparées une première fois. Elles se sont séparées une première fois, mais le destin, encore lui, nous a fait nous retrouver lors de la présentation d'un conte qu'il avait écrit, un conte pour enfants qui s'appelle Suna, le petit grain de sable. J'aimais beaucoup le titre de ce conte. Il avait présenté ce conte à la médiathèque de Port-Royal à Paris. Et à la fin de la représentation, c'est là que je lui ai parlé de mon projet, auquel il a adhéré tout de suite. Et le travail a commencé pour aboutir à 3 représentations en 2004 et 2005. Alors ce projet, c'était quoi? C'était que je voulais monter un travail, un monologue sur la vie et l'œuvre de Paul-Émile Victor. Et grâce à lui, j'ai pu jouer dans la salle de la Société des auteurs, la fameuse SACD, devant un parterre de 70 personnes, journalistes, la famille de Paul-Émile Victor. Et ça, je l'en remercierai toujours. Ça a été un moment absolument hors du commun et qui restera gravé en moi pour la vie, quoi. Finalement, Fabrice a suivi son chemin, encore une fois, mais cette fois, nos routes se sont vraiment séparées. C'est un chemin qu'il a suivi que je soupçonne, d'ailleurs, mais que je ne dévoilerai pas. Tandis que moi, de mon côté, fort de l'expérience de vie que j'ai vécue avec lui, oui, eh bien, j'allais poursuivre ma route vers d'autres projets. Mais ceci est encore une autre histoire.
Les claquettes, ces scènes de danse mythiques dans les films hollywoodiens, comme Chantons sous la pluie, un de mes films préférés. Eh bien, sachez que les claquettes en France existent bel et bien. Et j'ai fait la jolie rencontre entre spectacle et larmes d'émotion, elle comprendra, la jolie rencontre avec Nathalie Ardilier. Surgit de son cœur, comme guidée vers elle, la danse est venue tracer son chemin où vie personnelle et vie artistique se sont entremêlées. Une interview pleine de découvertes.
Tu peux y aller.
Oui, bonjour, je suis Nathalie Ardilier, je suis danseuse... On peut recommencer.
Oui,
attends.
Je t'en prie.
Non, mais parce que quelqu'un qui m'envoie. Parce que le problème sur l'ordinateur, c'est qu'on voit les messages qui sont envoyés sur le portable, là, tu vois. Oh, ça m'agace.
Ok. Quand tu veux.
Je suis Nathalie Ardilier, danseuse de claquettes jazz à la base, et surtout artiste qui évolue depuis plus de 25 ans dans le domaine du jeune public et très jeune public.
Alors, Nathalie, moi, quand on me dit claquette, je pense au film The Artist, qui a eu un très, très gros succès en 2011, je crois, et qui rappelle tous ces grands noms des scènes hollywoodiennes comme Jim Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, etc., etc. Et parmi tous ces noms, je n'en ai pas trouvé de français. Pourquoi, à ton avis?
Alors, les claquettes, on va dire tap dance, puisque c'est le terme, c'est une, on va dire, une discipline artistique anglo-saxonne. Donc ça, c'est absolument pas notre culture. C'est pour ça que moi, j'ai eu un cheminement assez compliqué, parce que vouloir être danseur de claquettes en France, c'est pas évident du tout. On est obligé de tout créer, puisque ça ne fait pas partie de notre culture. Donc, c'est vraiment, vraiment... américain, anglais. On connaît, nous, ici, essentiellement, comme tu dis, les comédies musicales, avec les grands noms, Fred Astaire, etc. Mais on ignore que ça vient vraiment du jazz, de la musique jazz, parce qu'en fait, tous ces danseurs-là, dans les comédies musicales, mine de rien, étaient formés par les vieux danseurs noirs américains, enfin, qui n'étaient pas vieux à l'époque, avec qui moi j'ai eu la chance de me former également puisque je suis allée plusieurs fois aux États-Unis et d'ailleurs ils sont tous décédés aujourd'hui, ils s'appelaient les Hoofers. Alors c'est des noms qu'on connaît pas en France comme Jimmy Slide par exemple.
Ce n'est pas notre culture en France, la culture du tap dance n'est pas une culture française. Comme tu le disais, ça vient de la musique jazz, c'est ça hein, les racines. Et donc le jazz est plus américain. Ceci dit, au fil des années, il y aurait pu y avoir des artistes qui émergent justement de cette... Parce que les claquettes sont arrivées jusqu'à nous.
Alors, ce qui s'est passé avec l'histoire de la musique jazz, c'est que les musiciens sont venus en Europe, les musiciens de jazz. Mais les danseurs ne sont... En fait, au départ, il y avait surtout dans les big bands, qui étaient des énormes orchestres de jazz... Donc ça, c'était vraiment à l'époque du swing, où là, il y avait des danseurs de claquettes. Et ensuite, quand le bebop est arrivé, où là, les danseurs de claquettes ont vraiment, vraiment improvisé avec les musiciens de jazz, En fait, ils sont pas venus. Ils étaient très peu nombreux. Hein. Ils sont pas venus jusqu'en Europe. Eux, ils sont pas venus. Celui dont je te parlerai plus tard, Jimmy Slide, ma prof qui a été sa partenaire. Lui, il est venu, mais c'était dans les années 80. C'était très tard par rapport à voilà.
Oui, c'est tardif. Oui.
Donc du coup, on connaît uniquement les films avec les comédies musicales, Hollywood, hein, c'est tout. On connaissait pas cette tradition du jazz tap, du rhythm tap.
Mm-hmm. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, toi, comment est née ta passion pour ce type de danse? Quel est ton parcours? Comment tu en es arrivée là?
Alors, je vais essayer d'être brève. Moi, mes parents étaient vraiment des danseurs. Ils dansaient beaucoup. Et mon père jouait aussi de l'accordéon, il jouait un peu de batterie dans les bals quand il était jeune. Enfin voilà, il y a vraiment cette tradition familiale de musique et danse, du rapport de la musique et de la danse. Mm-hmm. Et alors moi, quand j'étais enfant, j'étais passionnée par Claude Nougaro. J'avais 10 ans parce que j'avais des grandes sœurs qui écoutaient Nougaro et j'adorais. Et Nougaro, pour moi, c'est un danseur. Il chante, il danse le jazz quand il... C'est vraiment... Et quand je suis arrivée à Paris, en fait, j'ai cherché à danser sur de la musique jazz. Et c'était les années 80. Et à l'époque, il n'y avait que des danses. La danse jazz se faisait sur du disco. C'est pas du tout mon truc. J'ai grandi dans une minuscule petite ville à la campagne. Alors, on avait une prof de danse extraordinaire, qui était une vraie artiste, qui peignait, qui chantait, qui venait se former à Paris tous les ans. L'été, elle faisait des stages de toutes formes de danse. Elle était formidable, complètement créative. Cette femme a été très importante, hein, dans mon... Mais dans ma famille, c'était tout le monde dansait, mais alors de là en faire son métier, absolument pas. Mm-hmm. Donc moi, ça a été, en fait, c'est une fuite. J'ai quitté, en fait, on va dire vraiment, je suis montée à Paris, quoi.
D'accord.
Okay. Mais c'était à l'époque, c'était plus pour fuir la famille, on va dire. Donc,
d'accord.
J'ai plutôt fait d'abord une formation en documentation, etc., dans le milieu culturel.
D'accord.
Et c'est par la suite que j'ai... Mais dans mon inconscient, et je ne te parle pas de ça pour rien, puisque dans mon cheminement, la psychanalyse aura été très importante aussi.
Oui.
J'aurais jamais créé ce spectacle à petits pas si je n'avais pas fait de psychanalyse. Donc, je suis allée au centre américain parce que je me suis dit, là, je vais sans doute entendre du jazz, quoi. Oui. Et effectivement, j'entends sur un piano quelqu'un qui jouait du jazz, et je rentre, et c'était Sarah Petronio, qui est devenue ma prof de claquette, en fait, qui donnait un cours de claquette jazz. Et c'est comme ça que j'ai complètement flashé, et c'est comme ça que je suis... voilà. Mais à l'époque, je travaillais à la documentation, à la préfiguration de la Cité de la Musique, c'était l'Institut de Pédagogie Musicale et Chorégraphique, là où je travaillais. J'avais pas du tout prévu de me lancer dans une carrière artistique, même si quand j'étais enfant, ça aurait été mon fantasme et mon rêve. Mais voilà, de là en faire son métier. Et puis j'ai économisé mes petits sous et je suis partie aux États-Unis. En fait, je suis partie plusieurs fois.
Ouais.
J'ai eu une bourse la première fois. J'ai eu une bourse.
Ouais.
C'était parce qu'à l'époque, il y avait encore ces vieux danseurs noirs américains. Parce qu'en fait, très souvent, ce sont les femmes qui sont devenues chorégraphes, qui ont créé des compagnies.
D'accord.
Des femmes qui étaient les partenaires de ces vieux danseurs.
Mmh.
C'est pour ça que je parlais de Sarah Petronio, ma prof, à Paris. Elle a été la partenaire de Jimmy Slide.
D'accord.
Alors elle a créé une compagnie quand elle est... Mais moi, j'étais pas à Paris à l'époque, hein, au centre américain. Mais après, elle est repartie aux États-Unis, donc j'ai pas pu... voilà. Et du coup, j'ai tout fait pour rentrer dans une compagnie à New York.
Mm-hmm.
Ça s'appelait Manhattan Tap.
Oui.
Parce que la chorégraphe Heather Cornell voulait nous faire rentrer dans une troupe d'apprentis, en fait, qui allait dans les écoles, qui faisait des spectacles dans les écoles. Et c'est l'année où les visas se sont durcis. J'ai jamais réussi. Il aurait fallu que j'ai une carte verte et j'ai jamais réussi à l'avoir.
Oui.
Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur le divan du psychanalyste et que j'ai créé à petits pas.
Mm-hmm.
Cet échec, le fait de ne pas avoir pu rentrer dans cette compagnie à New York, que finalement j'ai atterri à cet endroit-là, qui est tout, la vie m'a amené à, qui était beaucoup plus ma place, Parce que à New York, là-bas, mais il fallait voir la technique, mais les danseurs, c'est, ils ont une technicité, mais vraiment, c'est la compétition dans tous les sens. Moi, c'est pas du tout mon caractère, c'est complètement l'inverse. Donc, j'ai un parcours très atypique, puisque je suis la seule, je pense, en France, à faire des spectacles pour les bébés, quoi. Enfin,
Donc, tu trouves ce cours de claquettes au final, et comment tu as vécu tes premiers cours? Est-ce que c'était dur techniquement? Est-ce que tu t'es dit au final c'est vraiment ce qui me correspond, ou est-ce que tu as eu des doutes?
Ah non, à aucun moment j'ai eu des doutes. C'était vraiment tout d'un coup, j'étais chez moi, j'étais à ma place. Parce qu'en fait, j'avais grandi en faisant de la danse, hein. J'avais fait de la danse jazz, j'avais fait de la danse classique. J'avais fait de la percussion, tout ça, c'est le rythme, et puis je baignais, j'adorais le jazz, la musique jazz. Donc,
d'accord. Oui, donc tu avais vraiment tous les ingrédients dans le chaudron,
voilà.
En fait. Hein. C'est ça, et il ne te manquait plus que concrétiser, d'assembler tous ces ingrédients-là. Pour pratiquer les claquettes, est-ce qu'il faut des aptitudes physiques particulières? Est-ce qu'il y a des difficultés spécifique à travailler, à dépasser?
Alors, tout à l'heure, tu m'as demandé si ça avait été difficile au départ. Moi, j'ai jamais, parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir un maître, hein, puisque Sarah Petronio, c'est vraiment une grande artiste et une pédagogue hors pair. Et ça a toujours été très ludique, très musical. Et de toute façon, tout ce que j'ai fait, moi, dans ma vie, parce que j'ai fait plein aussi de pratiques parallèles, yoga, Feldenkrais, tout un tas de choses, mais toujours dans le plaisir. Moi, vraiment, moi, s'il n'y a pas le plaisir, je peux pas. Je peux pas. J'ai fait de la batterie pendant des années, par exemple, mais c'était pareil, c'était ludique, c'était, s'il y a du plaisir, et en plus, dans les claquettes, surtout si on force, là, c'est une catastrophe, parce que, déjà, c'est très mauvais pour les tendons, c'est très mauvais, hein. Et au niveau du son, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé le son, justement, puisque cette prof, nous disait toujours, c'est le mouvement qui crée le son. Donc, plus on est relâché, et meilleur sera le son, en fait. Voilà. Donc, tout ça, c'est une histoire de lâcher prise et de relâcher dans le corps, hein. Les claquettes, faut absolument pas être tendu. Si on est tendu, on n'y arrivera jamais.
Ça marche pas. Non. Faut se laisser porter par le rythme.
Alors, par contre, après, ça demande beaucoup de travail, comme n'importe quel instrument de musique, en fait.
Bien sûr. Voilà. Ah oui, tiens, c'est drôle. Tu dis instrument de musique.
Oui, parce qu'en fait, c'est de la danse. C'est vrai qu'en France, on connaît les comédies musicales. C'est pour ça qu'on dit toujours la danse claquette. Alors, c'est vrai que moi, tu m'as vu très peu vu évoluer, parce que j'en fais peu dans des allopiers. Mais par contre, t'auras tué à toi, etc. Là, je fais beaucoup de claquettes. Et c'est vraiment de la danse, mais c'est vraiment de la musique, quoi.
C'est un accompagnement rythmique, en fait. Hein,
voilà, c'est ça. La percussion. C'est le mouvement qui crée le son, qui crée la musique. Et donc, du coup, moi, pour moi, ça, c'est un instrument à percussion, en fait. Hein.
D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les envisager comme ça, parce que, comme on disait au départ, on est tellement influencé par la culture des comédies musicales hollywoodiennes, très basées sur la danse, en fait.
Ils sont formidables, hein, mais là où c'est différent, c'est qu'il n'y a pas d'improvisation, tout est chorégraphié, donc c'est vraiment de la danse, quoi.
C'est super intéressant. Et c'est marrant, du coup, tu as fait donc de la batterie. Donc tu vois, tu as quand même quelque chose avec le rythme.
Alors en fait, j'ai fait de la batterie. Bon, déjà j'avais fait de la percussion quand j'étais enfant, mais c'est surtout que ma prof adorée, Sarah Petronio, quand elle est partie aux États-Unis, elle est repartie. Moi, je me suis retrouvée en France. Il n'y avait pas grand monde avec qui j'avais envie de travailler, parce que dans cette tradition vraiment du jazz. Donc du coup, je suis allée chez tous les grands profs de claquettes à Paris, mais j'allais aux États-Unis tous les ans me former, enfin dès que je pouvais. Mais surtout, moi, pour moi, ce qui était évident, et en plus j'avais envie d'en faire, c'est que je me suis dit, je vais faire de la batterie. Déjà au niveau du tempo, travailler le tempo pour être dans le tempo. Parce qu'un danseur de claquette, il aura beau faire tout ce qu'il veut, s'il est pas dans le tempo, ça sonne pas, c'est ridicule, quoi. Mais c'est pas évident d'être dans le tempo. Et la batterie, ça aide beaucoup. Voilà. Donc j'ai eu la chance de travailler avec un grand musicien de jazz, un français qui s'appelle Christophe Marguet. Et donc je faisais du shabada tous les jours chez moi. Je travaillais une heure par jour ma batterie, quoi, pendant 3 ans. Ouais.
Tu as dit plusieurs fois, je n'aurais jamais pensé devenir artiste, danseuse, professionnelle, etc. Mais du coup, à quel moment tu as fait la bascule, justement? À quel moment ça s'est professionnalisé?
Alors c'est très concret, en fait.
Oui.
Parce que je travaillais à la préfiguration la Cité de la Musique. Oui. On avait des contrats qui se renouvelaient tous les ans. On avait des contrats à durée déterminée d'un an, en fait.
Oui.
Et le jour où il a fallu signer le contrat à durée indéterminée parce qu'on passait dans les locaux définitifs de la Cité de la Musique, et ben là, j'ai quitté. Donc, du coup, j'ai pu avoir le chômage, j'ai commencé à donner des cours, etc. Et c'est très concret,
hein, oui,
la façon dont ça s'est fait. Mais, alors, par contre, pour répondre plus à ta question d'une façon... De ce qui me portait, c'est que je dis toujours, je n'avais pas le choix. On me dit oui, mais on a toujours le choix. Mmh. Et moi, je dis toujours, c'était ça ou l'asile psychiatrique. Parce que je sais, si je n'avais pas fait ça, j'aurais sombré dans une dépression.
Ouais.
Voilà. Et c'était vraiment, j'avais pas le choix. Ça s'est fait parce que j'avais pas le choix. Mais je pense, après coup, que si j'avais vraiment réfléchi, j'y serais peut-être pas allée aussi facilement, parce que ça n'a pas été simple non plus, ça s'est pas fait en 2 jours, quoi. Voilà.
Oui, non, j'imagine.
J'avais quand même 23 ans, hein,
voilà. Ouais.
Donc, voilà.
Ouais. C'est tardif pour commencer une carrière de danseuse, c'est ça, en 3 ans?
Danseur de claquettes en France, il n'y a pas de boulot et qu'on connaît rien à part les cours. Moi, j'ai enseigné 11 ans quand même, hein.
Oui.
Essentiellement aux enfants, c'est aussi.
D'accord.
Tout ça qui a fait que j'ai créé pour les enfants après, hein.
Mmh. D'accord. Justement, on va parler de tout ton travail avec les enfants. Donc, tu as développé plusieurs spectacles à destination du jeune public. C'était important pour toi de travailler vers le jeune public? Parce que c'est un choix.
Ça s'est fait vraiment complètement naturellement.
Oui.
Oui, c'est un choix, bien sûr, puisque c'est... Et d'ailleurs, les spectacles pour les tout-petits... En 2000, puisqu'on l'a créé en 99, à petits pas, on était très peu nombreux. Hein.
Oui.
Il y a 20 ans, on n'était vraiment pas nombreux. Et du coup, dès qu'on crée un spectacle de qualité, il tournait énormément, puisqu'il y en avait, peu.
Bien sûr.
Et en fait, moi, ça s'est fait naturellement dans le sens où j'avais beaucoup enseigné aux enfants, et à partir de 3 ans, alors qu'en France, on les prend à 6 ans, parce qu'aux États-Unis, c'est 3 ans. Donc moi, je faisais ça.
Ouais.
Et donc il y a tout un côté ludique de développer l'imaginaire, etc., qui était déjà là, en fait.
Mmh.
Et quand on m'a proposé de créer un spectacle, pour moi c'était un petit peu la suite logique aussi. Enfin voilà, c'était de façon très très naturelle.
D'accord.
C'est pas du tout quelque chose que j'ai cherché. Ça c'est arrivé à moi, en fait.
Mmh. Ouais, c'était cohérent pour toi, quoi.
Complètement.
Et est-ce qu'on crée différemment pour les petits que pour les grands, pour les adultes? Est-ce que tu travailles d'une manière différente?
Ah oui, là, les spectacles pour les tout-petits, c'est vraiment... C'est très spécial. C'est ce que m'a toujours dit le metteur en scène. Il dit, c'est jouer et créer pour les tout-petits, c'est spécial. D'abord, il ne faut pas attendre la reconnaissance puisqu'ils n'ont pas les codes.
Non.
Ils ne savent même pas applaudir, déjà. C'est une démarche complètement à part. Ça n'a rien à voir, déjà.
Mmh.
Et alors, entre créer pour le jeune public ou... On va dire que créer pour les tout-petits, c'est créer pour les adultes aussi. C'est pour le tout-petit qu'il y a dans l'adulte.
Oui.
C'est-à-dire que, après, je dirais plus que c'est une histoire de format.
Mmh.
Voilà, il y a un format pour les tout-petits. Qui là c'est pareil, c'est très concret, c'est la durée, c'est le niveau sonore, c'est voilà, il y a quelques codes comme ça qui sont importants d'intégrer, puisque avec le tout petit on fait pas n'importe quoi, évidemment.
Mm-hmm.
On peut se permettre plus de choses avec les adultes, évidemment.
Mm-hmm.
Voilà, mais avec le tout petit en même temps il y a un espace de liberté énorme, puisque lui il découvre la vie et on a tout à lui transmettre, quoi. Donc c'est un espace de créativité vraiment très... Moi, personnellement, ça n'a rien à voir, parce que quand je jouais avec les musiciens de jazz, c'était voilà, on jouait sur des standards ou sur des compositions. Moi, j'écrivais ma partition, etc. J'improvisais sur des, mais c'était de la musique en fait. C'était, voilà, c'était plus de la musique puisque moi, j'ai jamais fait vraiment des choses. Et alors, il y avait des chorégraphies sur le thème, mais c'était très improvisé puisque je viens de là. Hein. Mais après, une fois qu'on crée pour les bébés, c'est vrai que j'aurais pu garder ce format de chansons, mais je suis allée vers des spectacles, j'allais dire, qui m'ont emmenée ailleurs, en fait.
Pour créer tes spectacles, tu t'inspires de qui, de quoi, où vas-tu chercher les idées pour que tes pieds répondent à tout ça?
Alors, en fait, quand je dis à petits pas, parce que je vais parler vraiment d'à petits pas, puisque c'est le seul où j'ai impulsé l'idée à petits pas. À la base, c'est un spectacle que je devais écrire seule, donc c'est pour ça que j'avais écrit une histoire de pied, en fait, au départ. Oui. Voilà, c'était ça. Et quand je dis que c'est vraiment la psychanalyste qui m'a fait écrire ce spectacle, c'est que je l'ai écrit sur le divan. C'est-à-dire que ça a été vraiment tout mon cheminement, c'est vraiment mon cheminement que j'ai mis dans ce spectacle.
Oui.
Alors, métaphoriquement évidemment, puisque dans ce spectacle, ça va du pied nu jusqu'aux claquettes. Mais moi, j'ai mis mon cheminement, donc ça passe par les pieds qui découlent, les chaussettes, les chaussures, la claquette qui arrive en énorme, en nombre, une chaussure énorme, et tout d'un coup qui fait un son et qui amène à la danse, etc. Enfin voilà. Donc c'est tout un cheminement qui s'est fait. Puis comme Jean-Louis Sclapès crée plein de spectacles avec du théâtre d'ombre. Bah, du coup, j'avais vraiment envie pour le tout petit de mélanger l'ombre et la percussion.
Oui.
Et donc du coup, voilà, on a créé ce spectacle mélangé de la projection avec la lanterne magique, projection de théâtre d'ombre. Et puis c'est cette image en fait du bébé dans son landau, dans son berceau, qui a les pieds en l'air et qui joue avec ses pieds.
Oui.
Ce spectacle est partie de cette image-là en fait, qui est une des premières images du spectacle en fait.
Oui, voilà. On revient un petit peu à l'idée de l'enfance dont tu parlais tout à l'heure, quoi.
Quand je parle de psychanalyse aussi, je l'ai réalisé vraiment, 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 mais c'est très personnel, hein. Et puis, moi, j'ai pas eu d'enfant, donc il y a beaucoup de femmes aussi qui créent parce que le jour où elles tombent enceintes, elles ont ce désir aussi. Moi, ça n'a pas du tout été ça. Mais par contre, quand je dis la psychanalyse, c'est que vraiment, vraiment, moi, je sais que j'ai travaillé quelque chose de ma petite enfance.
Quand j'ai préparé un petit peu l'interview, je suis allée un petit peu voir un petit peu ce qui se disait sur la tap dance, claquette et tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait tout un vocabulaire. Enfin, très souvent d'ailleurs, comme dans la musique ou comme dans la danse, il y a un vocabulaire pour désigner les sons, les rythmes, les gestes. J'en ai sélectionné 3. Si je te les donne, est-ce que tu peux nous les expliquer rapidement? Par exemple, il y en a 3 que j'ai trouvé amusants. Il y en a un, c'est hop.
Hop, c'est quand on saute. Hop.
Hop.
Un petit saut, en fait.
J'ai trouvé clic.
Je ne connais pas trop clic, mais... Non, parce qu'en plus, il y a des gens qui... Il y a plusieurs vocabulaires, si
en
tu veux.
En plus, ah oui, c'est
voilà,
ça.
Voilà, tu as des gens qui... Alors, clic, non, ça ne me dit rien du tout.
Toi, ça ne dit rien. On passe. J'ai trouvé stomp.
Stomp, c'est le pied entier. Quand on met le pied entier, voilà. Ouais. On peut dire stamp ou stomp.
Ouais. Ok. Bon, on pourrait continuer. Mais tu vois,
par exemple, dig, c'est un trou en anglais.
Ouais.
Donc c'est on pointe la pointe sur le sol. To dig.
D'accord.
Voilà. Et d'ailleurs, dans mon spectacle des ailes aux pieds, à un moment donné, je les chante.
Oui.
Tu t'en rappelles pas, mais tu sais, je dis cela, et je fais. Oui. Parce que je trouve ça intéressant d'utiliser ce vocabulaire.
Mais carrément, oui, je me souviens très bien que tu fais ça dans le spectacle, mais je n'avais pas fait la relation entre vocabulaire et gestes, effectivement.
Oui, c'est ça, ouais.
C'est chouette.
En tout cas, je voulais vraiment te remercier parce que ça a été un vrai plaisir de parler des claquettes, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion, en tout cas, en France. Et en plus de par tes questions, tu amènes, c'est parce que toi, ça t'intéresse d'aller un peu plus loin, justement, de voir pourquoi ce cheminement.
Oui.
C'est pas juste le cheminement, c'est pourquoi.
Oui.
Pourquoi t'en arrives là? T'as insisté plusieurs fois, j'ai vu, et voilà. Et puis c'est toujours intéressant de même si c'est pas facile de parler de ce qu'on fait.
C'est jamais simple, non. C'est jamais simple.
Mais c'est intéressant.
En tout cas, c'était super parce que moi j'ai appris plein de trucs et que du coup. Effectivement, c'est toute une part, un monde artistique à explorer et j'espère qu'on va être un petit peu plus à l'affût.
Derrière la dernière porte des coulisses, il y a Marion. Et Marion, elle, nous raconte toutes les choses méconnues ou un peu secrètes du théâtre. Aujourd'hui, c'est les expressions.
Dis donc Marion, qu'est-ce que tu peux nous raconter si je te dis dindon, farce et tabac ?
Dindon, farce et tabac. A priori, tous ces mots n'ont rien à voir avec le monde du spectacle. Et pourtant, on les retrouve dans certaines expressions très populaires dans l'univers du théâtre. Prenons par exemple l'expression « être le dindon de la farce » qui signifie qu'une personne est victime d'une plaisanterie bouffonne et qu'elle est l'objet de la risée publique. L'origine de cette expression n'a pas grand-chose à voir avec l'univers culinaire, mais plutôt avec le théâtre. Au XVIIe siècle, un dindon est un homme vaniteux et stupide, donc facile à berner, ou, dans un langage plus familier, facile à plumer. Quant à la farce, il ne s'agit pas du tout du mélange de viande et d'herbe, mais d'un genre théâtral. Au Moyen-Âge, les farces étaient des interludes improvisés et farfelus, joués sur le parvis des églises, par des acteurs, au milieu d'un drame religieux qu'on appelait mystère. Ces farces mettaient en scène des personnages souvent grotesques et vivant des situations ridicules, où régnaient tromperie, ruse et mystification. C'est donc comme cela qu'est née l'expression « être le dindon de la farce ». Mais à contrario de cet exemple, certaines expressions utilisées au théâtre trouvent leurs origines dans un univers très éloigné de celui du sixième art. Prenons par exemple l'expression « faire un tabac » qui est utilisée pour qualifier le grand succès d'une pièce de théâtre. Eh bien, cette expression n'a rien à voir à la base avec l'univers théâtral. Elle provient de plusieurs glissements sémantiques, c'est-à-dire de plusieurs changements de sens d'un mot. Si l'orthographe actuelle de tabac est T-A-B-A-C, celle du tabac à fumer, à l'origine, on écrivait plutôt tabassa ou tabasta ou tabas. T-A-B-A-S. Ces mots d'origine occitane signifiaient frapper à grands coups ou faire beaucoup de bruit. On trouve encore d'ailleurs cette forme d'écriture dans le verbe tabasser qui signifie rouer de coups. Alors par homonyme, c'est-à-dire le fait que deux mots se prononcent ou s'écrivent pareil, eh bien au 19e siècle, tabac T-A-B-A-S s'est confondu avec tabac T-A-B-A-C. Et c'est l'orthographe de ce dernier qui est devenue la norme. On utilise ainsi la locution passer à tabac, T-A-B-A-C, et non plus à tabac, T-A-B-A-S, comme synonyme de tabasser. Au 19e siècle, le tabac, T-A-B-A-C, signifiait donc faire beaucoup de bruit. L'hypothèse de son usage pour décrire les applaudissements fournis et bruyants à la fin d'un spectacle semble donc parfaitement pertinente. À noter qu'au début du XXe siècle, pour un acteur, l'expression « avoir un le gros tabac » signifiait être très très apprécié. Aujourd'hui, on utilise plutôt l'expression « brûler les planches », c'est-à-dire jouer la comédie avec talent et remporter un immense succès. Le verbe « brûler » fait référence aux bougies que l'on plaçait jadis sur scène pour éclairer les acteurs. Ainsi, plus un acteur jouait, plus il brûlait de bougies et donc plus il avait de succès. Mais si une pièce ne rencontre aucun succès, on se retrouve confronté alors à l'expression « faire rire le velours ». Et oui, la hantise des gens du spectacle, qu'ils soient sur la scène ou dans les coulisses, est de faire rire le velours. Autrement dit, de jouer devant une salle quasi vide. Le velours dont on parle ici, c'est celui des fauteuils du théâtre. Un velours rouge spécial qu'on appelle d'ailleurs « rouge théâtre ». Ce rouge fut choisi par Napoléon, qui voulait se démarquer ainsi des théâtres de l'Ancien Régime, dont les fauteuils étaient souvent bleus. Voilà, maintenant vous savez tout, ou presque, de ces drôles d'expressions du théâtre.
Et voilà, nous avons ouvert toutes les portes des coulisses pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour d'autres découvertes à faire derrière le rideau, avant que les artistes arrivent sur scène. Et aussi pour découvrir une artiste à l'univers doux et coloré. D'ici là, eh bien, aidez-nous à grandir. Conseillez notre podcast à votre entourage. Partagez les épisodes sur vos propres réseaux sociaux. Nous sommes très faciles à trouver sur YouTube, Instagram, Spotify, Deezer, Google, etc., etc. Et notre maison, notre hébergeur est PodCloud. Allez-y, on referme les coulisses.